Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière session d'un cycle d'enregistrement spécialisé pour la Semaine Sainte. Depuis 5 jours, et jusqu'à aujourd'hui donc, Radio Présence vous a proposé une lecture commentée, spirituellement et musicalement, de la Passion selon Saint Jean, de Jean-Sébastien Bach. Pour nous porter dans la lecture commentée de la Passion, nous avons passé la semaine avec le Père Jean-Michel Boirier, bonjour.
Bonjour.
Et avec le chef d'orchestre Jean-Marc Andrieux.
Bonjour.
Donc, pour cette dernière journée, le Vendredi Saint, on va dire que nous rentrons pleinement dans la Passion elle-même. C'est aujourd'hui que les chrétiens assistent à l'office de la Passion et vont entendre la lecture intégrale de l'évangile de Jean que nous avons entendu pendant ces 5 jours. Cette cinquième journée, nous l'ouvrons sur un récitatif absolument extraordinaire. Le récitatif posé par le ténor et qui nous embarque dans véritablement la chute. Il y a une figuration ici musicale qui est absolument extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
De quoi est-ce
qu'on parle?
Encore une fois, le génie de Bach va s'exprimer va illustrer musicalement les faits. Alors il faut déjà signaler que le passage, enfin, le Père Poirier en parlera mieux que moi, mais que le Bach choisit de s'échapper un petit peu de...
Oui, c'est une infidélité à la Passion selon Saint Jean.
Il va emprunter 2 versets à Matthieu.
Il emprunte à Matthieu.
Alors pourquoi? Je pense que le voile du temple n'est pas évoqué par Jean.
Non.
Le rideau du temple n'est pas évoqué par Jean, mais c'est Matthieu. Alors Bach va vouloir utiliser cet épisode-là pour peut-être davantage de théâtralité aussi, et peut-être pour aussi amener l'air de soprano qui va suivre. Voilà, donc le rideau du temple se déchire, le violoncelle, la basse continue, va jouer des notes extrêmement rapides dans une forme descendante, et on voit carrément la musique va dépeindre cet effet-là de déchirement du rideau.
C'est rare que ce soit autant mis en scène, notamment la basse continue, d'habitude, elle a son rôle d'accompagnement,
surtout,
là elle a une voix.
Surtout à l'église en fait.
Oui.
En fait, ce qui est nouveau, c'est que c'est des procédés qu'on utilise à l'opéra, bien sûr, mais que personne n'avait, je crois encore, imaginé utiliser dans le cadre liturgique.
Alors la signification de ce rideau qui se déchire, Père Poirier.
Alors donc, cela effectivement ressort dans l'évangile de Matthieu. Le rideau du temple, c'est en réalité le rideau séparant ce qu'on appelait le saint du saint des saints. Dans le saint des saints, qui est donc voilé, il y avait autrefois, mais dans le premier temple, l'arche de l'alliance avec les tables de la loi, le bâton de Moïse, etc. Puis il y avait surtout les fameux chérubins qui étaient dessus, et donc c'est un peu le symbole de la présence divine. Et dans ce Saint des Saints, donc c'est là où ne pénètre, comme nous l'avons dit lors de la première émission, ne pénètre que le grand prêtre, et une seule fois par an pour le jour du grand pardon. Et c'est l'endroit le plus sacré du temple, c'est l'endroit le plus sacré en Israël, c'est vraiment le lieu même où, si je puis dire, la présence divine a son pic d'intensité, a atteint son maximum. Et ce qui est signifié par le fait que ce rideau se déchire, c'est deux choses. On peut penser d'une part, un peu comme dans Ézéchiel, on veut dire la gloire de Dieu quitte le temple désormais, elle sort et elle va ailleurs. Et donc ça annonce déjà le fait qu'avec la mort de Jésus, le salut s'ouvre. Et on va partir de Jérusalem et elle va se répandre,
se propager
aux quatre coins du monde. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle ce nombre de manifestations du ressuscité s'opère en Galilée. Mais ça peut vouloir dire aussi que désormais, la révélation est achevée. Et désormais, l'identité même de Dieu qui jusque-là était voilée est maintenant dévoilée aux yeux de tous. C'est-à-dire que c'est sur la croix que l'être de Dieu se dévoile de manière absolue, que la révélation atteint son apogée. Et donc, le rideau peut se déchirer, et désormais tout le monde peut voir, et évidemment il y a peut voir, et qui est Dieu. Et il y a évidemment un rapport, et là c'est Bach qui le fait, entre le déchirement du voile du temple et puis le déchirement, si je puis dire, du corps de Jésus à travers le coup de lance dont nous parlerons tout à l'heure.
D'accord, donc après ce récitatif, juste enchaîné, oui. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose.
Oui, et puis après la terre tremble, les rochers se fendent, les tombeaux s'ouvrent, et de nombreux corps de saints ressuscitent. Là aussi, c'est un passage évidemment que Bach va utiliser musicalement, et qui va reprendre dans l'arioso qui suit, il va reprendre les mêmes idées, et les exprimer plutôt par la sensation, le théon va exprimer le ressenti du croyant, face à ces événements.
Donc il y a une véritable rupture donc, effectivement, entre le récitatif et l'arioso.
Alors c'est intéressant de voir que les nombreux corps de saints ressuscitent. Oui. C'est un petit peu comme si la résurrection était déjà là. Et d'une certaine manière, c'est pas tout à fait infidèle à l'évangile de Jean, où lorsqu'on traduit que Jésus remit, expira, en fait il remit l'esprit. On a l'impression, dans l'évangile de Jean, que la gloire est accomplie et qu'aux yeux du croyant, d'une certaine manière, avec la mort de Jésus, la résurrection est déjà là. L'esprit est déjà donné.
Donc ce fameux arioso ténor qu'on a commencé à évoquer, effectivement, dans le texte, il dit « La terre tremble, les tombeaux s'ouvrent parce qu'ils ont reconnu le Créateur ». Donc effectivement, on retrouve ce que vous nous expliquiez, Père Poirier, avec le rideau s'ouvre sur quoi ? Sur une reconnaissance du Créateur. Comment est-ce que musicalement est-ce que ça se traduit ? Quel est le procédé que Bach utilise pour cet arioso ?
De la description du théâtre, encore une fois. Alors, il va utiliser là les deux flûtes et deux hautbois, un hautbois d'acacia et un hautbois d'amour. Ça donne une tonalité, une sonorité un peu mystérieuse, avec des notes tenues. Et il va modifier l'harmonie à chaque fois qu'un nouveau mot va arriver. Par exemple, quand il dit « Die Sonne sich in Trauer kleidet », que le soleil s'habille de deuil, la tonalité va changer. On va entendre pratiquement la musique se transformer sur ce mot « deuil ». Ensuite, le rideau se déchire. Les violons vont reprendre un petit peu ce motif de déchirement, le roc se brise, la terre tremble, là les basses vont jouer un do dièse inattendu en le répétant, bom 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 bom, enfin c'est vraiment très très figuré, et les tombeaux s'ouvrent, ta 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 ta, la musique va remonter, tout ça a été illustré. Et puis, was willst du deines Ortes tun, de ton côté, que vas-tu faire ? Là, on va avoir une conclusion interrogative. La musique reste suspendue à l'air et on attend que l'air de soprano va ensuite suivre.
Vous nous présentez deux instruments, vous avez dit tout à l'heure.
Oui, j'ai parlé des instruments de la famille du hautbois, en fait. Le hautbois d'amour, c'est un hautbois en la qui est un peu plus grand. Et le hautbois d'acacia, c'est un hautbois qui est encore plus grave, qui est recourbé, et au bout duquel il y a un pavillon comme un corps de chasse. C'est un instrument qui a été redécouvert dans les années 60, dans les partitions de Bach qui avaient toujours marqué hautbois d'acacia, hautbois de chasse, mais on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et cet instrument a été retrouvé par justement le hautboïste de Nicolas Arnoncourt, dont on parlait auparavant. Yeah. Et dans les années 60, donc, dans un musée, je crois que c'est à Stockholm, Heilperin, donc le hautboïste de Arnoncourt, a trouvé cet instrument et l'a reconstitué, l'a refabriqué et ont recommencé de rejouer. Alors au début des enregistrements des années 60, c'est pas très 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 convaincant. Bon, ça a eu le mérite d'exister, mais actuellement, maintenant, les musiciens arrivent à maîtriser cet instrument qui est beaucoup utilisé dans la Passion selon saint Matthieu. En tout cas, ici, dans cet air, il y a seulement cet air qui utilise le hautbois d'acacia de Bach. Il y a aussi beaucoup de cantates dans lesquelles il l'utilise, et puis ça n'est pas le seul. Bach n'est pas le seul à l'utiliser. Il y a Graupner qui a écrit des concertos pour cet instrument.
Et pendant des dizaines d'années, on a joué, ce qui est écrit pour un instrument spécifique,
on a joué au cor anglais. C'était joué au cor anglais, mais bon, c'est pas du tout le même son quand même.
Il y a une couleur voulue par Bach et qui correspondait à cet
Absolument.
Instrument.
Absolument, ça joue en faveur de l'utilisation des instruments d'époque. parce que Bach, ben quoi, il utilisait des instruments d'époque, bien sûr. Et s'il utilise un certain instrument, c'est qu'il a vraiment une volonté d'illustrer par la sonorité de l'instrument le propos musical. Je vous ai parlé de la flûte qui était faible. À la première émission, on a parlé de la flûte qui joue un si bémol majeur pour donner une impression de faiblesse du croyant. Si vous faites ça avec une flûte moderne, l'effet est perdu. Bach utilise aussi souvent la trompette, par exemple, pour illustrer le mot... Enfin, pas souvent, non, mais il y a une cantate dans laquelle il utilise la trompette et sur le mot « faux », il fait jouer à la trompette une note qui est fausse. Bon, ben, si vous jouez ça avec une trompette juste, l'effet est perdu aussi. Vous voyez, toutes ces subtilités-là sont quand même mieux exprimées par l'utilisation d'instruments d'époque.
Très bien, nous écoutons maintenant donc cet arioso pour le ténor, « Mon cœur, mein Herz ». Juste après cet arioso du ténor, enchaîné à nouveau, donc ce même procédé où Bach enchaîne un arioso et un air, et il est donc confié au soprano. De quoi s'agit-il ?
Fond mon cœur en flot de larmes pour honorer le Très-Haut. Là, c'est une déploration. En principe, Bach confie à la voix de soprano les airs confiants et joyeux. Là, cette fois-ci, Zerflüss, c'est un air plutôt d'une grande tristesse. Et il utilise les flûtes traversières pour jouer la mélodie au départ. Là aussi, en fa mineur, qui est une tonalité très très sombre. Et on entend aussi... au moment où la soprano dit « Dein Jesus ist tot »,« Ton Jésus est mort », la basse va répéter des notes en ralentissant « Bom, 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 bom ». On a une illustration là de peut-être du...
Comme un cœur qui s'arrête
D'un cœur qui s'arrête. Oui, et c'est un effet aussi qui est saisissant et qui est extrêmement émouvant à ce moment-là.
Et il s'agit toujours donc des textes que l'on a présenté dans un jour précédent, donc des textes qui ne sont pas l'évangile, des textes qui ne sont pas des chorales, mais des textes qui correspondent à une forme de piété à l'époque. Effectivement, oui. Quand on lit « Fond mon cœur »,« Flot de larmes », etc., c'est vrai que c'est assez...
Oui, c'est un retour de l'affectif, si vous voulez. On parle des affects, de l'âme, qui a été notamment... favorisé par le développement du courant piétiste qui s'est développé dans le nord de l'Allemagne dans la seconde moitié du XVIIe siècle et qui est contemporain de Bach, même si on a dit dans une émission précédente que Bach était à la fois dans ce courant mais en même temps il n'y adhérait pas totalement, enfin, c'est-à-dire il n'est pas uniquement, si vous voulez, dans de l'affectif, si on peut dire, hein. Mais il est vrai qu'ici, il est question du cœur du fidèle, et qui se laisse affecter par, et qui prend sur soi les souffrances du Christ. Mais si on a bien lu ce qui précède, si on a bien entendu ce qui précède, ce qui fond, ce qui pleure, c'est, si je puis dire, le vieil homme, pour reprendre les catégories de Paul, mais c'est afin que le nouvel homme puisse ensuite surgir. Donc il faut que quelque chose meure pour que quelque chose ressuscite. Et là, on est plutôt sur le versant, effectivement, de ce qui doit mourir, et on se laisse affecter, et puis il y a aussi cette place laissée, oui, à l'affectif, dans la foi, et c'est intéressant de voir que la foi n'est pas uniquement une question de cérébrale, enfin, une réflexion, mais qu'elle affecte, oui, toutes les dimensions de la personne humaine.
Donc nous écoutons cet aria. Après l'aria vient un long moment. Là, il n'y a plus qu'un acteur. Quand on lit la Passion, c'est un moment où l'évangéliste prend seul la parole.
Ce qui est normal, puisque Jésus est mort.
Jésus est mort, mais voilà.
Par définition, il ne peut plus prendre la parole.
Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de Pilate, etc.
Oui, mais c'est-à-dire tout le monde, voilà. Tout le monde est parti.
Le débit est très ralenti aussi, dans le texte de Bach.
Alors, Pilate est quand même... On va demander à Pilate que... Voilà, on va demander à Pilate un nombre de choses. Il va y avoir les soldats qui vont s'approcher. Donc il y a quand même d'autres personnages. Mais ils ne prennent pas la parole. L'évangéliste ne leur donne pas la parole. Ici, le temps de la parole est terminé. Mais Jean va attirer l'attention sur un point qui là aussi pourrait paraître être un point de détail. Alors il y a quelque chose de très matériel. Hein. La fête de la Pâque va commencer dans la chronologie de Jean. Il faut donc, on ne peut pas laisser ces hommes en croix. Il faut que les gens aillent désormais, enfin les Juifs aillent préparer la Pâque. Et donc on va abréger les souffrances des condamnés. Et on va leur briser les jambes. Pour hâter leur fin, puisque on rappelle quand même que le supplice de la crucifixion, c'était une mort lente et la plus douloureuse possible. Et donc, on envoie des soldats pour leur briser les jambes, qui brisent donc les jambes des deux autres qui sont crucifiés avec Jésus, qui dans l'évangile de Jean d'ailleurs ne parlent pas, il n'y a pas de bon et de mauvais larron. Et puis comme ils s'approchent de Jésus, bon, ils ne lui brisèrent pas les jambes, et on nous dit que l'un des soldats ouvrit son côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et là tout d'un coup, l'évangéliste va dire, et celui qui l'a vu, celui-là, on a témoigné, son témoignage est vrai, et celui-là même sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez. Alors c'est surprenant que tout d'un coup il y ait cette... Alors on pourrait penser que ça peut qualifier l'ensemble de la Passion, mais ça vient sur ce point, encore une fois, qui pourrait paraître uniquement juste un point de détail de la Passion. Il en sortit du sang et de l'eau. Alors derrière, il y a une symbolique qui remonte à Ézéchiel. Ézéchiel avait la vision d'un temple idéal. Et dans ce temple idéal, du côté droit du temple, sortait une source et qui purifiait tout sur son passage, revivifier tout, les arbres poussaient, et ça allait même jusqu'à assainir les eaux de la mer morte. Et l'évangéliste nous a dit au début de l'évangile, au chapitre 2, que Jésus a annoncé que ce temple serait détruit et qu'en 3 jours il le rebâtirait. Alors on dit, mais il a fallu 46 ans pour le bâtir, comment toi tu vas le rebâtir en 3 jours? Et l'évangéliste ajoute, le temple dont il parlait, c'était son corps. Et ce que veut signifier ici l'évangéliste, c'est que la promesse, ou plutôt la vision d'Ézéchiel, s'accomplit en ce moment même. C'est-à-dire que du corps de Jésus, qui est le véritable temple, par l'offrande de sa vie qu'il fait sur la croix, c'est un courant de vie qui sort, et qui va tout revivifier sur son passage. Et même les eaux de la mer morte vont être revivifiées. Alors, il ne le dit pas, mais c'est entendu derrière. Alors, il n'y a pas simplement l'eau, mais il y a aussi le sang. Mais qui sont deux figures de la vie. Et les pères de l'Église vont reconnaître rapidement dans le sang et l'eau les deux grands sacrements de l'Église primitive. L'eau, c'est le baptême, et le sang, c'est l'Eucharistie. Et donc, et le baptême et l'Eucharistie sont les deux sacrements de la mort et de la résurrection de Jésus. Et cela est signifié à travers ce côté ouvert d'où sort du sang et de l'eau. Et l'évangéliste va ajouter, ceci est arrivé afin que l'écriture soit accomplie, une fois de plus, vous ne lui briserez aucun os. Et ailleurs, dit un autre passage, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Et donc il invite son lecteur à regarder, à contempler la croix et à voir le flot de vie qui, loin d'avoir été tari par la mort de Jésus, au contraire, ne fait que s'amplifier. Et va tout va rendre la vie et va tout revivifier sur son passage. Et c'est cela que Bach va inviter à contempler à travers par le choral qui va suivre immédiatement ces mots.
C'est vrai que c'est étonnant parce que ces passages sont vraiment essentiels pour la compréhension de la Passion du Christ. Mais pourtant Bach, effectivement, il le confie simplement au récitant et qu'il n'en fait pas...
Parce que c'est l'évangéliste seul qui prend la parole à ce moment-là et que Bach est très respectueux du... Il n'y a que l'évangéliste qui parle. Oui. Alors il y a peut-être un léger ralentissement malgré tout sur les paroles de l'écriture, hein, où il note adagio, je crois.
Oui, à certains moments il marque adagio, justement dans le passage où l'évangéliste
dit que l'écriture doit être accomplie.
Cite l'écriture, là, Bach marque adagio, le débit doit se ralentir certainement. Et puis il faut aussi remarquer que le registre vocal va de plus en plus vers le grave, progressivement. Au cours des deux derniers récitatifs, le registre va de plus en plus vers le grave, comme illustrant aussi la mise au tombeau.
Alors on peut imaginer qu'il a positionné ici un choral, peut-être aussi pour faire respirer l'auditeur, parce que,
bien sûr.
Une fois, ce passage des récitatifs est très très long. Oui. Donc ce choral au milieu, voilà, qu'est-ce qu'il
nous dit ? Il est long et en même temps, ça va quand même assez rapidement, puisque précisément, il n'y a que l'évangéliste qui
s'exprime. Oui, il est plus long que tous les autres qui avaient...
Ah bah, c'est la plus longue, la plus longue partie.
Oui, puis il y a beaucoup plus de choses à dire. Et puis, il n'y a plus d'action, finalement. Il n'y a pratiquement pas d'action. Le choral, aide-nous, Christ, Fils de Dieu, par tes souffrances amères, à ce que, constamment soumis à toi, nous évitions tout vice. Encore une fois, une application des événements à notre vie.
Voilà, que ta mort et sa raison d'être, nous méditions avec fruit, et que pour cela, combien pauvres et faibles, nous t'offrions des sacrifices en action de grâce, et donc on passe ici de la méditation sur les souffrances à l'action de grâce, c'est-à-dire à la louange finalement.
En nous écoutant ce choral, au Hilf Christ. Voilà, donc c'était l'avant-dernier choral, il y en aura encore un après. Ici, donc, dans l'épisode, dans le récit, il s'agit de la mise en tombeau du Christ. L'évangile, donc le Bach choisit d'arrêter effectivement la passion selon Saint Jean dans le récit de l'évangéliste au moment de la mise au tombeau. Il aurait pu aussi l'arrêter plus tôt.
Oui, il aurait pu l'arrêter plus tôt, effectivement. Ceci dit, pour la Passion selon Matthieu, c'est la même chose aussi. Il intègre dedans la mise au tombeau.
Oui, je ne sais pas si c'est Bach qui choisit à quel moment. Peut-être que.
En fait, ce sont les récits de mise au tombeau. Souvent, on passe un petit peu. Parce que, bon, une fois que Jésus est mort, on a l'impression que l'essentiel est achevé. Alors, c'est vrai que du côté de Jésus, si je puis dire, l'essentiel est achevé. Mais le mystère continue parce que désormais, il y a son intégration dans la vie du croyant. Et en fait, alors d'une part, cette mise au tombeau est importante aussi pour les récits de résurrection qui vont s'accrocher à cette mise au tombeau, mais dans la mise en œuvre qu'en fait Bach d'ailleurs dans les deux passions, il y a cette idée que le cœur du croyant est l'endroit où vient reposer Jésus, c'est-à-dire qu'il y a une inhabitation de Jésus qui se réalise par sa passion. Il vient mourir, mais mourir dans le croyant pour que bien sûr le croyant avec lui ressuscite. Autrement dit, ce passage, ce mystère de vie, de passage de la mort plutôt, enfin de vie à la mort, et ensuite de la mort à la vie par la résurrection, cette Pâque, elle s'opère dans le croyant lui-même. C'est pour ça pourquoi il est invité à recevoir en lui le corps mort de Jésus, mais afin que Jésus ressuscite en lui.
Donc Jean-Sébastien Bach ne nous lâche pas sur la mise en tombeau. C'est une ouverture vers le cœur final, l'extraordinaire et immense cœur Ruth-Vol. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce cœur? Comment est-ce qu'il est fait?
Oui, Ruth-Vol, là aussi, une formule mélodique qu'on peut aussi apparenter à une berceuse, en quelque sorte, puisque c'est là aussi une musique à trois temps. ce geste-là vers le bas qui caresse et qui console, hein, de, musicalement. Et puis, deux parties qui amènent une autre idée. Le tombeau tel qu'il vous est destiné et qui de plus ne recèle aucune détresse m'ouvre le ciel et ferme les enfers. Mach mir den Himmel auf. La musique va monter vers l'aigu pour exprimer l'idée du ciel qui s'ouvre. Und schließt die Hölle zu. Et on revient dans le grave pour évoquer l'enfer. Là aussi, toujours la figuration. Et ce couplet qui revient régulièrement, Ruhut vol, qui toujours est sous forme d'une berceuse.
Donc là, c'est un grand dispositif, c'est tout l'orchestre, tout le chœur, c'est 7 minutes, c'est vraiment c'est un moment essentiel musicalement dans la passion.
Tout le monde est rassemblé, on se retrouve autour du tombeau. À chanter, oui, tous les effectifs, mais avec quand même une certaine pudeur. Hein, à ce moment-là, la musique reste assez sobre et une expression plutôt intérieure.
Plutôt intérieure, même dans la partie centrale.
Oui.
Et ça reste quelque chose de...
Oui.
Là, je pense qu'il y a aussi une question d'interprétation. Mm-hmm. C'est-à-dire, je pense que, Jean-Marc, vous le dirigez justement dans cette tonalité-là. Et on peut penser à des enregistrements peut-être plus anciens qui en faisaient une espèce de chœur massif.
Hein, oui, oui.
Alors que
tout à
je
fait.
Pense que le type d'interprétation dans lequel vous vous situez respecte mieux la lettre, sans doute. Hein. Enfin, je pense.
J'espère. je l'espère. En tout cas, oui, je crois que la musique à ce moment-là n'a pas besoin d'emphase, quoi, finalement. Hein, c'est une prière et une consolation. Moi, je l'entends surtout comme une consolation.
Et puis, je trouve très beau dans les paroles du chœur, c'est vrai que cette mise au tombeau, c'est toujours un moment difficile dans des obsèques, hein, lorsqu'on arrive au cimetière, et que, voilà, on a l'impression que le ciel se ferme et que le corps descend dans un espace de fait clos et ténébreux. Et là, il va dire le tombeau. Enfin, le chœur va chanter « Le tombeau tel qu'il vous est destiné m'ouvre le ciel et ferme les enfers. » C'est-à-dire qu'on renverse complètement l'image, c'est-à-dire qu'au lieu de me fermer le ciel et de me balancer dans les enfers, au contraire, il ferme les enfers et il m'ouvre le ciel.
Donc il y a déjà un
donc, l'espérance
petit signal.
Est là.
Voilà.
Ah ben c'est pas petit, c'est l'affirmation de la foi, c'est l'espérance qui est là. Quoi.
Mm-hmm.
Donc un renversement de regard. Et je pense que dans ce que nous vivons aujourd'hui, ce Vendredi Saint, on peut essayer de trouver là aussi une autre manière de vivre ce que nous avons tous à vivre, le départ de proches. Alors nous, après, on partira, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on vivra, ça, c'est une autre affaire. Mais voilà, moi, je dis souvent, lorsqu'on célèbre des funérailles, aux yeux du monde, il y a un enterrement. Et moi, je me dis, on devrait célébrer un enciellement. C'est-à-dire que le corps est déposé en terre, mais en fait, c'est dans l'espérance que le ciel nous soit ouvert. Et c'est exactement ce que disent les paroles. Le tombeau m'ouvre le ciel et ferme les enfers.
Alors, prenons le temps de l'écouter sereinement, tranquillement, ce long chœur magnifique, le chœur conclusif, avant un dernier choral. Voilà ce chœur Roodvol que nous avons écouté en intégralité. Ce n'est pas tout à fait la fin. Il y a encore un dernier choral. Bach ne nous laisse pas après le chœur. Il dit, allez, j'ai encore quelque chose à dire. J'ai encore un choral à mettre en musique.
Oui, le chœur final qui n'est pas dans la Passion selon saint Matthieu, qui s'achève sur le dernier chœur. Mais là, oui, Bach rajoute un magnifique choral extraordinaire, là, qui pour le coup... nous amène dans la gloire, en fait, dans l'éternité, dans la gloire éternelle. Et on ressent ça vraiment dans le dernier mot, Ich will dich preisen ewiglich, je veux te louer éternellement. Mmh. Et là, la musique se ralentit avec de belles tenues. Et on a, oui, une vision céleste, je pense, dans ce choral.
Bien, ben, nous écoutons ce dernier choral. Voilà, avec ce choral s'achève notre cycle d'émissions, notre cycle d'une lecture commentée spirituellement et musicalement. Pendant toute cette semaine, ce sont le père Jean-Michel Poirier et le chef d'orchestre Jean-Marc Andrieux qui nous ont accompagnés. Je vous remercie énormément tous les deux d'avoir pris le temps de nous accompagner pendant cette semaine sainte.
Avec grand plaisir.
Voilà, nous aurons l'occasion d'écouter plus tard sur Radio Présence l'intégralité de cette passion sur Saint-Jean qui a donc été donnée le 26 février dernier à Toulouse sous la baguette de Jean-Marc Andrieux. Et bien donc à bientôt sur notre antenne pour écouter cette passion intégralement. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.